Deutsche Welle Allemagne Magazine. Il était une fois, dans un pays d'Occident, un père et son fils. L'un, Hildebrandt, est collectionneur et marchand d'art sous Adolf Hitler. Il meurt en 1956. L'autre, Cornelius, est son héritier. Un jour, en 2012, la police perquisitionne l'appartement de Cornelius à Munich, dans le sud de l'Allemagne, et découvre plus de 1400 œuvres d'art. Des œuvres qui pourraient en grande partie avoir été saisies par les nazis sous le Troisième Reich. Dans Allemagne Magazine cette semaine, nous revenons sur un trésor qui n'a pas fini de faire parler de lui. Et puis de l'art, on passera à la musique pour partir à la découverte de ces stars qui veulent requinquer la musique allemande. C'est Constance Wünkotze au micro. Guten Tag, bienvenue à tous. Des dessins, des aquarelles, des lithographies, des tableaux, des Picasso et des Matisse, pour ne citer que deux grands noms de la peinture moderne. En tout, ce sont 1406 œuvres d'art qui ont été trouvées dans l'appartement de Cornelius Gurlitt, fils d'un grand collectionneur d'art qui avait collaboré avec les nazis en écoulant à l'étranger des œuvres volées aux Juifs. Avant d'écouter l'analyse d'une spécialiste de la question, un petit rappel historique s'impose. Il se trouve qu'à partir du milieu des années 30, le régime hitlérien a décidé de confisquer dans les musées allemands et chez les particuliers des milliers d'œuvres d'artistes qu'il qualifiait d'art dégénéré par rapport à l'art héroïque officiel. Certaines de ces œuvres ont été détruites, d'autres vendues à l'étranger, d'autres encore ont été achetées à bas prix par des collectionneurs. Hildebrandt Gurlitt, le père donc du précédent, semble lui avoir été à la fois vendeur et amateur. Et non seulement il vend certaines œuvres pour son propre profit et non pas celui de l'État allemand, mais il achète aussi des toiles à des négociants d'art juifs contraints de vendre. À sa mort en 1956, Cornelius, son fils aîné, hérite donc de ce trésor pour le moins encombrant et le stocke dans cet appartement de Munich, non sans vendre certaines de ses œuvres lorsqu'il a besoin de renflouer ses caisses. Et c'est justement en rentrant d'un voyage en Suisse, les poches bourrées de billets, qu'il est pincé par la police. Perquisition, découverte, enquête, les médias s'en mêlent et révèlent l'affaire au grand jour. Comme tout le monde, Emmanuel Polak a donc appris l'existence de cette caverne d'Ali Baba le week-end dernier. Elle est pourtant spécialiste du marché de l'art à Paris sous l'occupation et chercheuse à l'Institut national d'histoire de l'art, basé dans la capitale française.
Oui, c'est tout à fait une nouvelle sidérante qui met en émoi la communauté scientifique. Ces œuvres, 1500 ou 1400 et quelque chose, enfin c'est vraiment impressionnant. Elles ont été enlevées soit du marché de l'art parisien, soit du marché de l'art suisse, soit en Allemagne, on ne le sait pas, il faudra travailler sur les œuvres d'art. Mais c'est vrai que c'est un nombre très impressionnant qui laisse augurer de grandes surprises et qui nous permettra de travailler très précisément sur ces œuvres.
Et qu'est-ce que ça signifie de trouver un tel trésor ?
Mais ces œuvres, elles ont une histoire, parce que certaines d'entre elles appartiennent à ce qu'on a appelé l'art dégénéré. Et il faut se remettre dans le contexte de l'Allemagne dans les années 30 et se remémorer que ces œuvres d'art étaient proscrites par les critères esthétiques du Troisième Reich. Hitler détestait les œuvres dites des avant-gardistes, des expressionnistes allemands. Ces œuvres ont donc un parcours très particulier. C'est des œuvres qui étaient pour la plupart d'entre elles qu'on croyait disparues. Les retrouver aujourd'hui, c'est tout à fait émouvant.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant concrètement ? Donc l'enquête est en cours. Comment on traite une affaire pareille ?
Très concrètement, ce qu'on commence par faire, c'est dresser un inventaire de chaque œuvre. Pour chaque œuvre, on va ouvrir un dossier d'œuvres dans lequel on va essayer de collecter un maximum d'informations. Essayer de retrouver ces œuvres dans les catalogues d'exposition avant la Seconde Guerre mondiale. Essayer de regarder les peintures, mais également les revers de l'œuvre. Regarder s'il y a des tampons de collectionneurs, des preuves d'appartenance à des musées. Et puis ensuite, un travail de traçabilité des œuvres et donc remonter un petit peu l'historique. Et puis ensuite, je pense que des commissions vont être mises en place par le gouvernement allemand afin que nous puissions déterminer très vite quelles sont les œuvres qui relèvent de l'État allemand, quelles sont celles qui relèvent de vols de propriété privée pour lesquelles il faudra aider les requérants à faire des demandes de restitution de ces œuvres.
Des demandes de restitution d'œuvres d'art, je ne sais pas vous, mais moi ça me fait aussi penser au débat autour des objets pillés pendant la colonisation.
Dieser Fall zeigt das Ausmaß des organisierten Kunstraubes.
Cette affaire illustre l'ampleur du pillage organisé des œuvres d'art qui a eu lieu dans des musées et dans des collections privées. Nous demandons que les peintures soient rétrocédées à leurs propriétaires d'origine. On ne peut pas accepter que ce qui moralement équivaut à une dissimulation de biens dérobés continue.
Rüdiger Malo travaille pour la conférence sur les réclamations matérielles des Juifs contre l'Allemagne. Ce qu'il pointe ici du doigt, c'est le silence des autorités allemandes qui avaient connaissance de l'existence de ces peintures depuis février 2012, date de la première perquisition policière au domicile de Cornelius Gurlitt. Cela fait donc plus d'un an et demi, et selon certains, c'est déjà trop. Sur ces questions de complicité morale et de transparence, on écoute encore une fois la chercheuse Emmanuelle Polak.
Ce sont des questions très sensibles, on le voit, parce qu'elles touchent à l'aspect et à l'enjeu mémoriel. Des tableaux de propriétaires juifs dont les familles auraient souffert, on voit très bien là les blessures béantes qui sont tout de suite réactivées. Et je comprends bien la douleur et l'émoi de la communauté juive. D'un autre côté, je dois comprendre et il faut comprendre que la police doit mener son enquête sans avoir une pression médiatique, pression des enjeux mémoriels, et elle doit avoir un temps pour faire son travail. Les Allemands l'ont montré par le passé, ont toujours regardé le passé en face. Et je suis certaine que mes collègues aujourd'hui, historiens de l'art, devant l'ampleur de cette découverte, prendront toutes leurs responsabilités et œuvreront de la meilleure façon possible.
On reste à Munich, la capitale bavaroise, mais pour parler de musique à présent. En général, il faut bien l'avouer, quand les étrangers parlent de la musique traditionnelle allemande, ce n'est pas pour en dire du bien. Trop ringarde, trop lourde, trop tranquille, c'est l'idée que beaucoup de gens en ont. Une idée de plus en plus fausse, car de jeunes musiciens s'activent depuis quelques années pour dépoussiérer le genre. Pour un peu, l'un de ces groupes aurait même représenté l'Allemagne au dernier concours Eurovision de la chanson et aurait certainement remporté un franc succès. Vous ne me croyez pas? Montez le son, Isabelle Hartmann va vous prouver le contraire.
Ça, c'est le titre Arabica de la Brass Banda, actuellement l'un des groupes allemands les plus acclamés du pays et probablement du monde entier. Car les quatre gars nés dans le sud de la Bavière sont désormais connus de New York aux États-Unis à Novosibirsk en Russie en passant par Harare au Zimbabwe. Leur recette? De la musique traditionnelle allemande avec batterie, trompette, tuba et saxophone, boostée par des rythmes de ska, de funk, de reggae et de tout ce qui bouge, et assaisonnée par des textes chantés en bavarois. Avec ce mélange détonnant, la Brass Banda a réussi une mission que beaucoup considéraient impossible, dépoussiérer la musique traditionnelle germanophone que l'on connaît plutôt comme ça. Ou comme ça. Les musiciens de la Brass Banda ont tous derrière eux une excellente formation de musique classique. Mais les cinq trentenaires n'avaient pas envie de rester assis dans une fosse d'orchestre, le trompettiste et meneur du groupe bavarois, Stefan Dettel.
die Chance gehabt, einfach in ein Symphonieorchester zu spielen und habe da ziemlich schnell gespannt, dass mir das ein bisschen zu ruhig ist.
J'ai eu la chance de jouer dans un orchestre symphonique et j'ai vite compris que c'était trop calme pour moi. Quand on joue une symphonie, ça dure trois quarts d'heure, on y met toute sa passion, puis on s'incline. Le public applaudit trois minutes et va chercher les manteaux de fourrure. Ce n'était pas assez pour moi, alors j'ai commencé à faire des concerts solo. Un soir, j'ai joué à New York dans un club étudiant. On était sept instruments avant sur scène et 300 personnes déchaînées, des filles en débardeur, trempées de sueur. Et je me suis dit, c'est ça que je veux.
Und dann bin ich im Club gestanden und habe gesagt, ja genau, das möchte ich auch machen.
Le succès phénoménal de la Brass Banda n'est que la pointe de l'iceberg. De nombreux artistes s'activent depuis plusieurs années à secouer la musique traditionnelle. Depuis qu'Hitler l'avait utilisée pour la propagande nazie dans les années 1930 et 1940, elle était en effet tombée en disgrâce et ne s'était plus guère développée depuis un demi-siècle. Le clarinettiste autrichien Christoph Spörk, qui s'est efforcé de donner un nouveau souffle à la musique traditionnelle dès les années 90.
Les musiciens allemands et autrichiens avaient ce problème historique avec leur musique traditionnelle et l'ont évité pour cette raison. Un bon musicien a longtemps préféré jouer du classique ou du jazz plutôt que de se concentrer sur le traditionnel.
Une attitude qui n'est aujourd'hui plus d'actualité, comme le montre l'explosion des groupes qui oscillent entre des rythmes venus des quatre coins du monde et traditions germanophones, amour régional et engagement antiraciste, comme le duo Segam und Andy B ou le groupe Kella Kommando. De quoi plaire à Stefan Dettel, le meneur de la Brass Banda.
Au fil des concerts, j'ai fait de belles rencontres avec des jeunes très éveillés qui connaissent plein de choses grâce à Internet, qui ont envie de bouger. Si je peux être le représentant de cette jeunesse-là, qui aime ses racines, mais n'a pas peur de sortir, alors c'est bien.
Transportiert wird, dann finde ich es echt cool.
Dans les coulisses, c'était Isabelle Hartmann, notre correspondante à Munich. Vous pouvez retrouver son reportage sur la musique allemande dans la rubrique podcast de notre site internet www.dw.de/français. Bonne semaine à tous, à la prochaine et Servus, comme diraient les Bavarois.